Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La Vie Symbolique avec Jean-Antoine Pageau, Jean-Philippe Marceau. Et aujourd'hui, on a un invité, Jean-Christophe Jasmin, qui est directeur pour le Québec chez Cardus. En guise d'introduction, Jean-Christophe, je te laisserai nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est Cardus, puis c'est quoi ton rôle là-bas.
Oui, parfait. Cardus, c'est un think tank, en français, un institut de recherche en politique publique. On a une trentaine d'employés là au Canada puis aux États-Unis. Puis ça fait 2 ans qu'on a commencé l'initiative au Québec. Puis c'est moi qui ai le plaisir de la diriger avec mon collègue Étienne Alexandre Beauregard que vous connaissez, en tout cas que certains de vos auditeurs doivent connaître. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver un institut de recherche en politique publique ou un think tank? Ben l'idée c'est que dans la vie démocratique. Les lois, les règlements, la manière dont on dirige l'État, ben c'est pas juste les députés qui décident ça entre eux le soir, la fin de semaine, là, mais c'est vraiment la société civile aussi qui est chargée de éclairer le débat public sur certaines questions. Puis nous, dans le fond, j'aime bien dire qu'on est le think tank de la société civile. Donc, toutes les institutions, ce que on appelle les corps intermédiaires chez Tocqueville, les Little Platoons chez Burke, donc la famille, la communauté locale, le couple, les institutions d'éducation, ben nous, on essaye de promouvoir leur rôle dans la société. Parce qu'on a aussi, on se cache pas d'être un think tank chrétien, donc inspiré par la doctrine sociale de l'Église, puis plus largement la théologie chrétienne qui voit dans ces institutions-là il y a quelque chose d'important dans des institutions qui ont un rôle subsidiaire, donc de soutien, puis qui sont solidaires, donc qui nous permettent de partager à la fois nos bonheurs et nos malheurs, nos richesses et nos besoins.
Parfait. Ben, c'est pour ça que j'avais envie de te parler, parce que c'est depuis 6 mois, un an peut-être, j'entends, puis moi sur le podcast, on s'intéresse au Québec, l'intersection du symbolisme puis du Québec, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est nous spécifiquement dans notre situation? Puis ben, vu que vous êtes un think tank chrétien, je sais que vous faites des recherches qui sont pertinentes pour nous. Une chose dont on a déjà parlé un peu, Jonathan puis moi, c'est la natalité. Puis je sais que chez Cardus, vous avez fait des recherches là-dessus. J'avais envie d'utiliser ça comme point d'attache. Si jamais on se met à parler d'autre chose que la natalité, c'est pas grave. En général, tu sais, je suis sûr que tu as plein de choses intéressantes.
Wow, c'est ça qui est le fun des formats comme ça, c'est qu'on peut jaser, se laisser aller,
on peut choisir, c'est comme un sujet qui est à la fois, je pense, qui est un sujet un peu tabou, tu sais, dans la pensée, disons, publique au Québec, mais qu'une fois que tu vois ce qui se passe, tu sais, ça devient tellement ridicule qu'il y ait un tabou sur cette question-là, parce que c'est tellement primordial, c'est évidemment à la base. Tu sais, on a des gens qui se disent darwinistes, qui croient à la théorie de l'évolution, mais que parler de natalité, ça, tu peux pas parler. Tu peux pas parler d'avoir des enfants. C'est vraiment
ridicule. On peut en parler pour les caribous. On peut en parler pour les caribous, mais pas pour les humains. Ça, c'est une autre question. Oui, tout à fait.
Fait que pour commencer, peut-être, Jean-Christophe, pourrais-tu nous dresser un portrait de ce qui se passe justement côté natalité au Québec?
Ouais, c'est ça. Tout ça là, c'est tout un domaine un peu technique aussi là, où ce que tu as des enjeux de démographie, tu as une terminologie particulière. Donc quand on parle de natalité, là, on parle du nombre de naissances par une population pour une population donnée, mettons 100 000 habitants. Il y a d'autres termes comme la fécondité ou le taux de fécondité, c'est-à-dire ça c'est le nombre d'enfants par femme. Mais encore une fois, là, c'est un petit peu compliqué. C'est comme si c'est comme un indice synthétique. Okay? Après ça, tu as la fécondité accomplie, c'est-à-dire bon, ben par cohorte, mettons les femmes qui sont nées en 1920, ils ont fini en moyenne avec combien d'enfants. Ça arrive pas tout à fait au même chiffre. Et donc toutes ces choses-là, là, des fois on se mélange. Là, mais une population qui est plus âgée ou qui a une plus grande espérance de vie ou qui a plus grande distance entre les naissances, ben ça, le taux de fécondité peut baisser, mais au final on va avoir le même nombre d'enfants. Fait que ça, juste avant de rentrer là-dedans, là, des fois, je vais être un peu pointilleux sur les termes. Puis sûrement que je vais me mélanger en cours de route, mais voilà. Donc, une chose qui est importante à noter, c'est que, avec réserve, là, au Québec aujourd'hui, le taux de fécondité qui permet le maintien de la population, c'est-à-dire sans immigration, c'est autour de 2.1. Okay? Ça, c'est un, bon, je parle de manière générale, là. Dans ma tête, j'ai un petit expert démographe en arrière qui me dit, ouais, tel détail et tout, là. Fait que 2.1. À 2.1, pourquoi 2.1? Ben, il y a un taux de mortalité, chez les gens avant qu'ils puissent avoir des enfants. Donc, si on parlait de la même chose en l'an 1000, ben le taux de maintien serait peut-être à 3 ou 4 enfants, mais là, on est à 2.1. Donc, la moitié de ce 0.1-là, c'est le taux de mortalité. L'autre moitié, c'est le fait qu'il y a plus de mâles qui naissent que de femelles. Donc, là aussi, il faut un petit peu plus d'enfants pour compenser cet écart naturel entre les deux. Et donc, au Québec, en ce moment, on est à 1.36, je crois. C'était le plancher historique au Québec. Puis, en 2024, on a pour la première fois de notre histoire, mais en fait, depuis la stabilisation de la population vers 1630, là, on a eu plus de décès que de naissances au Québec. Et si une UTT de l'immigration, ben là, on serait en déclin démographique. Le 2.1, on l'atteint plus depuis 1971. Okay? Ça aussi, c'est important de le noter. Sauf que la pyramide démographique était telle que c'est seulement aujourd'hui, presque 50 ans après qu'on passe sous le seuil de maintien, qu'on voit la population décroître. Une autre affaire aussi qui est frappante, c'est que le pic de bébés, donc le nombre en termes absolus, le plus grand nombre de bébés qu'on a eu, c'était au milieu des années 50. Donc chaque année, avec variation, là, mais de règle générale, il y a moins de bébés au Québec aujourd'hui, en 2026, qu'il y en avait en 1956. Ce qui est quand même frappant.
T'es jeté muté, là.
Ça dépend au nouveau pourcentage, mais les nombres absolus, là. C'est-à-dire le nombre de bébés.
Le nombre absolu de bébés.
Ouais, wow.
Ouais. Donc, j'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense que c'était autour de 150 000 là, en 1956, quelque chose comme ça. Donc, là aussi, c'est un peu étrange parce que les gains en population, là, le Québec a plus que doublé en population depuis le milieu des années 50, mais le gros de l'accroissement de la population, c'est fait avec l'espérance de vie qui a augmenté. Donc, au lieu d'avoir une pyramide, tu sais, très, très aiguë, là, comme on avait dans le passé, surtout avec le baby boom, ben là, on a plus une tour, donc il y a plus d'étages à la tour, là. Il y a 3, 4, parfois 5 générations qui peuvent vivre en même temps. Mais là, de manière un peu plus préoccupante, quand on arrive en dessous de 2.1, ben là, la tour se transforme un petit peu, on va dire, en urne démographique. C'est-à-dire que la population là commence à décroître, puis il y a beaucoup de pays dans le monde. Là, nous, avec l'immigration, on s'en tire bien, mais il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont, comme la Chine, par exemple, qui ont déjà passé leur population maximale et qui sont en décroissance.
Il y a plusieurs raisons pourquoi ça m'intéresse, là, la natalité. Une des choses que j'ai vues dans les chiffres ailleurs qu'au Québec, mais je pense que ça viendrait au Québec aussi, c'est que tu vois quand même des différences assez frappantes côté, disons, affiliation politique ou religieuse mm-hmm. et le taux de fertilité. Donc, j'avais vu, par exemple, que les gens qui vont à un service religieux régulièrement, mm-hmm. ben souvent, en fait, dans plein de pays, là, il y a un taux de fertilité qui est au-dessus du remplacement. Ouais. Mais les gens qui sont athées, ou on peut même parler des gens qui sont plus à gauche politiquement, ils ont tendance à être beaucoup en bas même de la moyenne de fertilité dans leur pays. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le genre de choses, je pense qu'il y a des impacts à long terme sur la société. Mais je me demandais, au Québec ou au Canada aussi, mm-hmm. Est-ce qu'on observe le même genre de choses?
Oui, on voit le même phénomène. Là, on a une étude de l'Institut Cardus qui a été publiée récemment. Là, c'est une étude de Lyman Stone. Ceux qui ne le connaissent pas,
ouais, je le connais.
C'est un personnage très intéressant qui a étudié, qui a fini son doc à McGill, fait que j'ai rencontré à Montréal récemment. Il parle un peu français. Donc oui, on a le même phénomène par rapport aux valeurs. Bon, là, c'est sûr, quand on fait des sondages par rapport à la religion, l'appartenance, on groupe des gens ensemble. Ce qu'on voit donc au Canada, c'est que oui, les groupes religieux, ils ont un écart quand même très important. Ce que j'ai ici, là, c'est que Surtout sur les idéaux, hein, ça aussi il faut séparer. Là. Il y a la fertilité accomplie, mais il y a aussi les idéaux. Qu'est-ce que les gens ont comme valeur? On a trois catégories. Donc les idéaux en matière de fertilité. Ça. Donc si je vous demande aujourd'hui pour vous, c'est quoi la taille de la famille idéale? T'sais, toi, JP, je sais pas, t'as des enfants, hein, je crois.
Ouais, 3 ans puis 1 an, je crois.
3 ans puis 1 an. Puis idéalement, c'est quoi la famille de rêve pour toi?
Ben, tant qu'on est en santé, là, je te dirais, là, on n'a pas de...
Ah, oh, OK, bon, là, c'est
de la triche.
C'est trichage, parce que c'est Maximil, parce que c'est un catholique, c'est, là.
C'est
donc
catholique,
c'est... Ouais, c'est ça. OK, mais mettons, idéalement, quand même, là, tu sais, tu penses idéalement finir à quoi? 7-8, peut-être, là?
Nous, ben, ouais, c'est ça. Alors, lorsqu'on a commencé, souvent 7-8, toi.
OK, bon. Puis bon, ben là, c'est ça. Là tu pièges, on va l'affaire, parce que, dans le fond, normalement, il y a l'idéal, puis il y a aussi le planifié. T'sais, donc, les gens, des fois, ils disent « Je veux 3 enfants, mais là, écoute, j'ai 35 ans, je pense 2, ça va être la limite. » Puis après ça, t'as le réel. Et donc, on voit dans la population qu'il y a tout le temps un écart entre les trois. Puis, ceux qui ont un idéal plus haut, naturellement, ils ont aussi ils finissent par avoir plus d'enfants. Donc, c'est pas parfait, là, mais il y a ça. Et donc, par rapport à la religion, là, on voit que en 2025, les femmes qui sont non religieuses, leur taille idéale là, de famille, c'était 1,55 enfants. Donc, c'est une moyenne, bien entendu. Là.
Ouais.
Chez les catholiques et orthodoxes qui ont été mis ensemble, c'est 2,16. Puis chez les protestants, qui sont les plus élevés, c'est 2,91. Cette année-là, on a aussi sondé les hommes. Et donc, au Canada, ça c'est choquant aussi ou frappant, mais les hommes veulent plus d'enfants ou l'idéal de taille de famille est plus grand chez les hommes que chez les femmes. Donc, chez les non-religieux, 1,83, chez catholiques et orthodoxes, 2,24, et chez les protestants, on est à 2,85. Donc,
ça m'intéresse quand même.
Au Québec, que c'est inversé, par contre.
Ouais, moi, okay. Ah oui, au Québec, c'est inversé. Oui,
le Québec est exceptionnel là-dessus. Même manière sur le vote, là, ceux qui votent l'idéal selon le vote, ben les femmes qui votent à droite en veulent 2,13, les hommes qui votent à droite 2,74, tandis que ceux qui votent pour des partis de gauche et le Bloc québécois qu'on a mis dedans, c'est autour de 1,80 pour les hommes et les femmes.
OK.
Donc, à terme, ça fait une différence quand même. Pardon?
C'est ça, c'est compliqué le Bloc de savoir c'est quoi, parce que c'est pas vraiment un parti de politique traditionnelle.
Exactement, c'est plus compliqué, là, ouais.
Moi, j'ai jamais regardé ça, les différences entre les idéaux de fécondité homme versus femme. Est-ce que c'est quelque chose de, tu sais, très habituel qu'au Canada, les hommes aient un idéal plus haut que les femmes?
Nous, c'est la première année qu'on le fait. Ce qu'on voit, c'est que dans toutes les provinces, les hommes ont un idéal un petit peu plus haut. Ça nous a surpris quand même, comme on a tout le temps l'impression, ah, les femmes sont plus maternelles, c'est elles qui souhaitent avoir des enfants, puis vraiment, c'est inversé. Puis, pour une raison étrange, au Québec, c'est différent.
Je sais que c'est en général, ces temps-ci, dans plein d'endroits en Occident, les femmes sont plus à gauche que les hommes. Fait que ça peut jouer un
ça
rôle aussi.
Ça peut avoir
aussi.
Un impact.
Mais est-ce que tu sais, disons, je sais pas, historiquement ou globalement dans le monde, si c'est un truc qui arrive de temps en temps, que les gars ont des idéaux de faire ça de plus haut?
J'ai pas de données historiques là-dessus, malheureusement, mais nous, ça a surpris tout le monde. Là, ouais, donc, j'imagine que normalement, c'est le contraire.
Oui, mais c'est peut-être aussi parce que, comment je pourrais dire, pour une femme qui accepte les idéaux un peu féministes ou les idéaux qu'on a depuis les années 60, d'affranchissement et tout, ça leur a été vraiment rentré là, dans l'esprit que il faut attendre d'avoir des enfants, faire ta carrière et tout. Mm-hmm. Tandis que les hommes, ils ont peut-être pas aussi assimilé autant le message, ce genre de message-là.
Ben ça, c'est intéressant que tu le dises, parce que nous, on a aussi, exploré, c'est quoi les raisons pour lesquelles les gens disent qu'ils veulent pas d'enfants tout de suite. Puis on se rend compte que, oui, les hommes et les femmes ont des raisons différentes. Puis peut-être que les raisons différentes, là, ils font écho au genre de socialisation auquel ils sont soumis.
Ouais.
On voit que, donc, les femmes déclare être plus inquiète sur les questions de soutien dans le rôle de parent, le soutien pour la garde des enfants, puis beaucoup des préoccupations par rapport aux soins. Tandis que les hommes sont plus inquiets par rapport aux finances, à l'emploi, puis à l'état de l'économie. Et donc ça, c'est un des facteurs là, d'inquiétude, mais aussi dans les facteurs de délai, là, on voit qu'il y a beaucoup de, encore une fois, il y a une division un peu là de considération plus financière économique chez les hommes, plus organisationnelle du foyer chez les femmes. Mais dans une étude précédente aussi, ce qui était frappant, c'est que quand on classifie ces préoccupations-là, tu sais, générales, financières et existentielles, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un impact assez important sur les préoccupations existentielles. C'est-à-dire, je veux me développer dans ma carrière, je veux grandir comme personne, je veux apprendre à me connaître. Puis, il y a beaucoup de préoccupations par rapport à « c'est beaucoup de temps s'occuper des enfants, j'aime avoir mon temps libre ». Et donc, on voit, comme Lyman, dans son rapport précédent, disait, il y a aussi là, je pense, avec la société, quand on considère comment nous, on a été élevés, peut-être Jonathan puis moi, un peu garochés, un peu laissés, tu sais, comme les free-range chicken, là, pour les poulets en liberté. Là, on était plus génération en vélo, en laissé à nous-mêmes. Mais là, à mesure que les normes parentales augmentent, que là, tous tes enfants doivent jouer un instrument de musique, tout le monde doit avoir du sport, tout le monde doit aller à l'école privée, tout le monde doit avoir... Ben là, tout d'un coup, les parents sont comme, attends, là, moi, je serais pas capable d'arriver à 3-4. Je vais réduire ou j'en aurai pas parce que je suis pas capable de fournir ce
genre de choses. Oui, c'est juste les sièges d'auto, tu sais, c'est vraiment un truc, c'est super simple, tu sais. Mais l'idée de dire que si tu as plus que deux enfants, tu dois considérer possiblement une autre voiture, c'est une petite voiture, tu as trois sièges, c'est difficile à rentrer dans le siège arrière. Fait que déjà, l'idée que si t'as plus que deux enfants, faut que tu ailles possiblement t'achètes une nouvelle voiture. Puis si t'en as quatre, cinq, là, après ça, c'est impossible. C'est surtout si t'es proches, là, t'es pris, là, faut que t'achètes une minivan ou faut que tu.
Honnêtement, mes collègues savent que la question des bancs de bébés, là, c'est pour moi, c'est un trigger, là. C'est vraiment quelque chose qui me provoque. Puis, on discutait justement là, des études qu'on veut faire dans l'année suivante. Puis, j'ai un peu de temps libre. Là, j'aimerais ça faire quelque chose sur les bancs d'auto. Puis, parce que pour moi, en termes de symbole, justement, là, le banc d'auto est vraiment... On pourrait juste... Je suis certain qu'il y a un parallèle parfait entre les normes culturelles sur les enfants puis la taille des bancs d'auto, tu sais.
Oui. C'est-à-dire l'idée de hyper protéger les enfants parce qu'on en a moins, qui mène aussi à en vouloir moins. Parce qu'il faut, il est hyper protégé. C'est comme une sorte de spirale là, qui devient de plus en plus pointue. Là.
Je pense qu'il y a une étude que j'avais vue sur le sujet qui estimait que pour chaque vie d'enfant sauvée par un banc d'auto, il y avait 150 naissances qui n'avaient pas lieu.
Ah, je crois.
Parce qu'on voit vraiment un drop, tu sais, selon est-ce que les parents ont déjà une minivan ou une voiture ou une berline? Ben, tu vois que les propriétaires de berline rendu passer le deuxième enfant, il y a comme une chute drastique de la fécondité. Là,
c'est incroyable.
Puis là, c'est là où ce que je suis pas en train de dire faut comme à l'époque de nos parents juste laisser les enfants pas attachés là assis à la bosse en arrière là, tu sais, mais est-ce que il y aurait moyen de dire ben écoute, pour les familles qui ont deux ou trois enfants, peut-être qu'on pourrait faire un banc à trois places qui fit sur une berline qui est 20% moins sécuritaire, qui est 20% moins gros, mais qui te permet de continuer de laisser grandir ta famille sans tomber dans justement d'être obligé d'acheter une minivan à 40 000 $. Donc, c'est vraiment un beau symbole pour moi, là, la question du banc de bébé. Puis c'est l'exemple de bien des problèmes en politique publique auxquels on fait face comme think tank ou dans la société, c'est que il y a pas comme une conspiration antinataliste, tu sais, c'est sain là dans le fond, c'est que tu as un accident avec un enfant mort, le coroner arrive, il émet des recommandations, il dit écoute, le siège clairement était pas suffisamment rembourré pour protéger l'enfant, on estime que chaque année il y a peut-être 15 enfants qui meurent comme ça. Fait que là, on augmente la réglementation, mais sans qu'on considère les effets de deuxième ou troisième ordre sur la société. Puis bien souvent, ben si t'as pas de voix, mettons, pour dire, ouais, ben pour les parents, par exemple, les parents vont pas se regrouper ensemble pour dire « à bas les bancs de bébés », puis t'as juste des voix pour, tu sais, les manufacturiers automobiles ou gouvernement, ben là, c'est que tu te ramasses avec des situations comme ça, des réglementations qui étouffent un peu la vie. Là.
C'est vraiment aussi une image d'un des gros problèmes sociaux qu'on a vu, selon moi, pendant la COVID spécialement. C'est-à-dire que on a la difficulté à comparer des biens. On a tendance à voir un bien, c'est-à-dire la sécurité des enfants. Est-ce que c'est bon? C'est sûr. Fait que là, on bouge dans une direction, on avance vers la sécurité des enfants. Puis là, on fait des réglementations qui clairement augmentent la sécurité des enfants. Mmh. Puis là, on a des œillets qui fait qu'on est incapable de voir les effets secondaires de ce genre de décision-là.
Ouais, parce que nos institutions, nos États, aujourd'hui, on est dans une société managériale, donc qui est basée sur une coordination avec des gérants d'une armée de spécialistes. Et là, l'accident qui soulève la question du renforcement des sièges de bébé, ça se rend jamais dans notre système jusqu'au démographe qui planifie les cohortes de naissance qui vont venir là. Il y a cette segmentation là dans le fond.
Ouais, puis c'est aussi parce que il y a certains biens qui sont plus difficiles à quantifier.
Ouais.
Tu sais comme de démontrer comment qu'un enfant qui est pas attaché meurt. La corrélation est claire, c'est évident. S'il n'était pas attaché, il passe à travers le windshield.
Il y a une charge émotive aussi.
C'est clair. Ouais. Mais de démontrer que de la rajout de sièges de bébé, il y a un lien direct avec la baisse de démographie, c'est beaucoup plus difficile. Puis c'est la même chose avec, par exemple, ce qui est arrivé pendant le COVID. C'est-à-dire, c'est facile de dire, si les enfants attrapent la maladie, ils vont être malades, on va les empêcher, mais de démontrer que ça va affecter leur vie sociale, leur vie affective et tout, c'est beaucoup plus difficile à quantifier. Mmh.
Tout à fait. Moi, je dis souvent, aux yeux de l'État, c'est ce qui se compte qui compte.
Ouais, c'est ça, exactement, ouais.
Puis l'État moderne, là, je pense que j'ai le livre en plus en arrière, là, Seeing Like a State de James C. Scott, là, c'est l'État moderne, c'est construit justement sur une augmentation de la capacité à percevoir, à voir la société. Puis donc, il y a des choses pendant la pandémie, ben, l'État était capable de voir, par exemple, l'occupation des hôpitaux, puis la courbe, si on veut. Les tests qu'on faisait tout le temps, c'était pour permettre à l'État de voir, à quelque part, la pandémie. Et là, soudainement, ben toute la société était orientée vers comment est-ce qu'on aplatit la courbe, ou autrement dit, un tableau avec un axe X et Y devenait le résumé complet du bien-être d'une société. Mais là, c'est sûr qu'il y a des choses qui rentrent pas dans ce tableau-là, qui sont évacuées, puis qui sont difficiles à compter, mais qui auront néanmoins un impact à long terme, c'est certain.
Sur les différentes causes, c'est que tu disais que les gens, ils rapportent avoir des raisons pour pas vouloir avoir d'enfants. Je suis toujours un peu sceptique des raisons que les gens donnent pour des choses, parce que je sais, dans mon domaine en informatique, on voit tout le temps ça. Les gens te disent qu'ils veulent que tu implémentes telle chose. Et pour de vrai, si tu fais ça, presque tout le temps, ils se rendent compte que c'est pas ça qu'ils voulaient vraiment. Souvent, il faut comme tu creuses pour comprendre c'est quoi le vrai problème. Puis c'est utile d'avoir du feedback des gens, mais souvent, tu peux pas comme juste prendre ça au premier degré. Puis, tu sais, mettons,
souvent, le client, il veut des lignes parallèles, mais qui se croisent, là. C'est ça, expliquer, ça se peut pas. Là.
Ouais, puis mettons, tu sais, côté fertilité, c'est beaucoup de gens disent, ben, on aimerait ça avoir plus d'argent, mais je suis toujours un peu sceptique de cette raison-là, parce que en fait, plus qu'on devient riche comme pays, plus que le taux de fertilité baisse. Fait que je serais curieux de savoir, c'est selon toi, c'est quoi, tu sais, le meilleur niveau d'explication qu'on a pour cette baisse de fertilité-là qu'on voit.
Ben, pour moi, c'est une situation complexe. Puis d'abord, je dois dire, je rejette entièrement toute explication simpliste par rapport à ça. Puis ça, c'est vraiment critique dans le débat sur la fertilité, la fécondité. C'est que tout le monde a sa théorie, là, sa petite théorie, souvent qui est basée sur ses présupposés politiques ou idéologiques. Puis ils vont dire, bon, ben, certains vont dire, ah, c'est à cause du féminisme, tu sais. Mais la baisse de la fécondité, elle a lieu en Iran aussi. On va dire, ah, c'est à cause du prix trop élevé des maisons. Mais l'Italie puis le Japon ont des maisons pas chères, puis la fécondité s'est effondrée. Tu sais. Ah, c'est à cause du développement économique. C'est à cause de... Ben, l'Inde est en train de passer en dessous du 2,1 aussi. Là, dans le sens que quand tu regardes les différents pays puis les différentes... conditions, ben on voit que cette baisse-là, elle a lieu un petit peu partout, puis il n'y a pas une hypothèse qui peut expliquer à elle seule l'entièreté du problème. C'est plusieurs phénomènes qui jouent ensemble en même temps. Puis il y a aussi un des problèmes dans la fécondité, dans les taux de fécondité, c'est qu'on voit qu'il y a des fois, il y a des effets d'entraînement aussi. T'sais. Puis je vais revenir à la on l'a traduit, cette étude-là, on l'appelle la vacance des berceaux. Là. C'est le rapport précédent de Lyman Stone. Puis là-dessus, il essaye d'expliquer... c'est pas dans cette étude-là. Dans une autre étude sur les écarts entre les gens pratiquants et non pratiquants, puis leur fertilité, il essaye d'expliquer un peu la différence entre les deux. Puis, bon, toi, JP, t'es catholique, donc t'as pas de limite maximale au nombre d'enfants, pour reprendre la vieille histoire de Monty Python, là. Nous, les protestants.
Ah, c'est
là.
Bon, c'est
vrai. Oui, c'est ça. On est un petit peu plus ouvert au contrôle à la contraception, par exemple. Et donc, tu t'attendrais, tu sais, à ce que catholique pratiquant puis protestant, il y a comme un gros écart entre, quand on calcule les pratiquants, là, qu'il y aurait un gros écart entre la fertilité totale, finale. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, quand on regarde d'autres éléments qui conduisent à avoir des enfants, comme être en contact avec des enfants, avoir un réseau social qui est riche pour te soutenir, tu sais, d'avoir des gens qui peuvent garder tes enfants, ça a un impact important. Et puis moi, pour l'avoir vécu dans l'église, là, chaque fois que ma femme a accouché, on avait, du pâté haïtien, des tourtières, on avait tellement de bouffe qui nous venait de l'église qu'on n'avait pas à cuisiner pendant un mois, là, tu sais. On a aussi décidé d'avoir des enfants après qu'on ait gardé les enfants d'amis dans notre petit groupe. T'sais. Nous, on n'avait pas d'enfants auparavant. Puis c'est après ça qu'on s'est dit, ah ben, 15, ça n'a pas de l'air si difficile que ça. Mais aujourd'hui, les familles sont plus petites. Donc, il y a un nombre important de jeunes femmes de 20-25 ans en âge d'avoir des enfants qui n'ont jamais pris un bébé dans leurs bras. Fait que c'est sûr que, tu sais, comme l'idée d'accoucher d'un bébé quand t'es pas en contact ou très rarement en contact avec des jeunes enfants, ça peut paraître terrifiant. Mm-hmm. Fait que pour moi, j'ai pas de réponse simple par rapport à ça. Je pense que le facteur principal, ou en tout cas, si on pouvait régler le problème de l'isolation, l'isolement social, puis de la communauté, puis de juste simplement mettre les gens davantage en contact avec des enfants, puis une communauté qui, ensemble, prend soin des enfants. Dans le fond, je pense que si on désindividualiserait ce problème-là, ça serait déjà un pas dans la bonne direction. Mais là, dans notre société moderne, ce qu'on fait, c'est qu'on individualise tout en imposant à l'État de pallier ce que les institutions intermédiaires sont capables de faire, comme la famille, comme l'Église, qui font mieux, mais qui disparaissent parce que ces institutions-là comptent pas non plus aux yeux de l'État.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Je serais curieux de ton opinion sur le tabou par rapport à la fertilité. C'est-à-dire, c'est pas un sujet dont on parle dans en tout cas, peut-être qu'à moins que je l'ai raté, là, ça se peut que c'est récemment, les gens ont commencé à en parler, mais il semble que c'est quelque chose auquel on s'accroche là, quand les gens essaient d'en parler en public, où il y a comme un malaise, où il y a l'impression, peut-être, j'ai toujours pensé que chez nous, c'était possiblement aussi à cause t'es un sorte de balancier là où on a l'histoire de nos grands-mères qui devaient avoir un enfant chaque année. Et donc, si on parle de démographie, les gens ont peur qu'on retourne à ça.
Ouais.
Mais le tabou, il existe un peu partout. Fait que c'est pas nécessairement ça non plus. Là, il y a aussi un tabou sur la natalité aux États-Unis aussi. Là.
Ouais, c'est ça. Je me demande si au Japon ou dans des sociétés vraiment différentes, le même genre de tabou...
C'était pas au Japon qui donnait carrément les jours de congé aux couples pour qu'ils aillent faire des bébés. C'était comme un truc qui était annoncé là. C'est comme ok, vous avez des jours de congé pour aller.
Écoute, ça c'est un sujet en soi. Toutes les mesures créatives, parce qu'il y a pas un pays qui a trouvé la solution.
Israël qui sont démographiquement.
Ouais, oui, puis non, c'est ça l'affaire, c'est qu'Israël est à la fois comme un des pays les plus libéraux, modernistes, progressistes et des plus orthodoxes, radicaux, là, tu sais, donc
ouais.
Quand tu découpes la fertilité en Israël, ben L'Israël moderne a les mêmes cours que le reste de l'Occident. C'est les communautés hassidim qui sont très, très orthodoxes, là, qui ont des 7-8 enfants. Là. Mais même là, même quand on regarde chez les Ménonites, les Amish, il y a quand même une baisse, là, même si on est encore à 5-6 là, chez les Mormons aussi. Même chez les populations qui ont beaucoup plus d'enfants en Occident, il y a quand même une baisse là, graduelle. Mais là, ta question précédente sur le tabou, ça c'est intéressant. Je pense honnêtement qu'on, avec les études qu'on a faites, je remarque qu'on a quand même brisé un petit peu le tabou. Maintenant, toutes les partis politiques en ont parlé. Le PQ en a parlé, Marois Risky au Parti libéral en a parlé, le PCQ en a parlé. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler, que ce soit pour des questions de qu'est-ce que les jeunes familles désirent. Parce qu'il y en a qui... Nous, ce qu'on remarque aussi dans nos études, c'est que les gens ont beaucoup moins d'enfants qu'ils ne le désirent. Fait que, comme souvent, les discussions de politique publique sur la question, c'était plus au niveau de la contraception, de l'avortement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour empêcher que les gens aient des enfants qu'ils ne désirent pas? Mais quand on regarde... Et ça existe. Il y a des gens qui déclarent avoir eu plus d'enfants qu'ils le désiraient, puis ça affecte leur vie. Mais la grande majorité... de la problématique, c'est plutôt le contraire. Les gens n'ont pas eu les enfants qu'ils auraient voulu avoir. Fait que je pense que le tabou est en train de se défaire. Puis après ça aussi, juste pour des questions économiques, là, qui va payer nos pensions, les soins de santé, comment est-ce que notre système, qui est un peu un système pyramidal, va continuer à perdurer. Je veux dire, si on pose pas ces questions-là. Puis je pense au Québec aussi, pour la question de survie nationale, c'est une question qui est moins tabou. Là. Je m'intéresse pas aux questions ethno-nationalistes. Là, faut des petits Québécois blancs. Pour c'est pas du tout le sujet qui m'intéresse. Mais comme on est 3% de la population nord-américaine qui parle français avec une culture propre, il y a un enjeu de transmission, puis c'est sûr que la natalité, c'est un des véhicules de transmission de ces choses.
Oui, parce que, tu sais, moi, tu sais, même si je me mets dans la peau de quelqu'un qui migre au Canada, c'est clair que je m'enligne sur l'anglais, là. C'est l'anglais va ouvrir beaucoup plus de portes que le français. Fait que même si on a des lois pour essayer d'obliger, disons, les immigrants d'apprendre le français et tout, c'est quand même normal qu'il y ait une tendance d'aller, si t'es un immigrant, même au Québec, d'aller vers l'anglais. Là.
Et donc, la question du tabou, là c'est sûr, on peut rentrer dans une grosse question philosophique plus profonde, là, mais je pense que c'est le problème du libéralisme qui a fait de l'autonomie, de la liberté, une idole.
Hein? Ouais.
Puis on a réduit sur plein de questions politiques, là, tu peux voir qu'il y a une réduction de la dignité humaine à la seule question de l'autonomie. Okay? Puis l'autonomie fait partie de la dignité humaine. C'est vrai que l'esclavage est un affront à la dignité de l'être humain. C'est vrai, là. Mais dans une perspective chrétienne, un esclave n'est pas indigne, dans le sens qu'il est quand même créé à l'image de Dieu. C'est sa condition qui est indigne. Mais il y a plus que ça, tu sais. Puis un des éléments importants, par exemple, dans une conception du bien commun, c'est la participation au bien commun. Tu sais, une chose qui fait partie de la dignité, c'est de pouvoir participer. Le sans-abri auquel tu fais juste donner la charité est pas traité autant dignement que celui duquel t'exiges le maximum de ce qu'il est capable d'offrir pour justement participer au bien commun. Là. Et donc, beaucoup de nos politiques publiques prennent pour acquis que le rôle de l'État, c'est d'assurer puis de maximiser l'autonomie. Puis c'est sûr que, je peux le dire en tant que père, je pense que pour une femme, c'est peut-être même encore plus exigeant, mais oui, c'est vrai que devenir parent réduit de manière importante ton autonomie, mais ça réduit pas ta dignité et ton bien-être. Ça c'est certain.
Oui, mais c'est ça, c'est aussi, c'est comme si on a fait une erreur par rapport à l'idée de liberté. Tu sais, on a comme une notion que la liberté fait partie de ce qu'un être humain désire. Puis je pense que c'est totalement vrai.
Ben ouais.
Mais on voit la liberté tout simplement comme une absence de contrainte quelconque. Donc l'être humain devient un être sans contrainte. Mais sauf que le problème, c'est que c'est pas ça la vraie liberté. C'est la liberté.
C'est que la liberté est un moyen.
Oui.
C'est la liberté à quelle fin?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que notre liberté serve quelque chose. C'est pour ça que dans la vision chrétienne, on a vraiment l'idée, tu sais, Saint Paul, la façon qu'il parle de ça, tu sais, il dit, vous êtes libre. Vous êtes libre du péché, mais vous êtes des esclaves de Dieu. Puis les gens n'aiment pas cette idée-là. Mais le problème, c'est que tu vas servir quelque chose, peu importe. T'sais, tu vas servir quelque chose. Puis si tu te retrouves à seulement être autonome, puis tu ne sers pas un bien qui est plus haut, plus élevé que toi, tu vas juste être malheureux, dans le fond. Mm-hmm. Tu vas être isolé, seul. T'sais, tu vas te retrouver sans but. Tu vas...
C'est
pas ça, la liberté.
C'est là où ce que notre... notre régime ou notre idéologie dominante révèle un peu ses biais quand, surtout sur la question des femmes, puis c'est vrai qu'il y a eu de l'abus, là, mais je veux dire, que c'est avilissant pour une femme de rester à la maison s'occuper de ses enfants. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne peuvent pas travailler ou quoi que ce soit, mais que c'est pas du tout avilissant d'aller chercher un salaire puis de travailler. T'sais, si tu sers tes enfants... Là, t'es pas une femme haute puis moderne, mais si tu sers un capitaliste à faire des PowerPoints à 55 000 $ par année, mais là, tout d'un coup, t'es comme une girl boss. Là, t'sais. Puis là, c'est là où ce que, je pense pas que la solution, c'est de mépriser la professionnelle pour élever la mère, mais c'est juste de dire, attends, ben pourquoi est-ce que dans notre culture, maintenant, on méprise l'un puis pas l'autre, surtout, puis là, ça c'est quelque chose qui vient un autre trigger, là, mais tu sais, surtout quand on dit, on parle sur les trad wives, puis toute cette idée-là de comme, comme si les chrétiens, on voulait que les femmes restent à la maison, puis c'est le mari qui va chercher un salaire, alors que l'idée même de sortir du foyer pour aller chercher un salaire, c'est quand même une innovation moderne, tu sais, dans le sens que, historiquement, tout le monde travaille à la maison.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, même l'idée du travailleur d'usine, dans le fond, qui va à une job, c'est vraiment un truc moderne.
Puis c'est intéressant. Quand ça a commencé, ouais, c'est ça.
C'est intéressant, c'est que, tu sais, dans notre sorte de société plus post-industrielle, on a, en fait, la possibilité de retourner, possiblement, à quelque chose qui ressemble plus à la vision traditionnelle. C'est-à-dire, l'idée que la femme reste à la maison, puis elle fait la vaisselle, puis elle s'occupe des enfants, c'est ridicule. C'est pas du tout. Ma grand-mère elle faisait absolument pas ça. Ma grand-mère était dans les filles d'Isabelle, elle était dans tous les comités du village, elle était impliquée partout. T'sais, elle faisait plein de trucs, il y avait un jardin.
C'est comme Yvon Deschamps, il disait ma mère, elle travaille pas, elle a trop d'ouvrages.
Ben oui, c'est ça. T'sais. Fait que c'est vraiment une illusion t'sais, d'un certain moment de l'humanité, là, carrément juste les années après-guerre où on s'imagine ce monde-là. Mais ça n'a rien à voir avec le monde aujourd'hui. Puis on a beaucoup plus, en fait, de flexibilité aujourd'hui de créer des familles qui ressemblent plus à la vie traditionnelle, c'est-à-dire tu sais quelqu'un qui travaille à la maison, qui a comme tu sais qui fait quelques heures par jour, qui est impliqué dans la famille, tu sais moi je suis toujours ici à part que quand je travaille, je suis à la maison, tu sais mon horaire est flexible, c'est vraiment quelque chose qui ressemble plus à nos ancêtres que tu sais aux travailleurs d'usine là qui clock in le matin.
Il y a des saisons où ce que des fois tu es vraiment occupé, puis il y a d'autres saisons où c'est plus tranquille, puis ouais, tout à fait. C'est plus proche de la condition, je pense, normale et naturelle. Puis, je veux dire, au début du salariat, c'était vu comme avilissant par les hommes d'aller travailler en usine, tu sais. Puis la grosse question d'envoyer les femmes en usine et tout, c'était aussi, attends, là, est-ce qu'on va leur imposer ces conditions avilissantes qu'on a? Là, maintenant, on a oublié ces choses-là. Parce que ça fait, bon, peut-être 3 siècles qu'cette transformation-là a commencé à avoir lieu en Occident. Bien qu'au Québec, je pense que la génération de nos grands-parents peuvent se rappeler d'un autre monde. Puis c'est ça. Donc, on oublie une dimension importante du monde d'avant. Puis moi aussi, ça me frappe quand, mettons, je lisais La Petite Patrie. J'ai comme mon défi cette année de lire des vieux romans québécois. Là. Une chose qui me frappait, tu sais, ça parle de Montréal dans les années 30. Ben, tu sais, toutes les madames sont à la maison, ou en tout cas une bonne partie. Mais là, ce que ça fait, c'est que t'as le vendeur de glace, t'as le laitier qui vient, t'as le vendeur de guenilles. T'as comme une vie de quartier qui existe parce qu'il y a comme, dans toutes les maisons, t'as une présence qui représente la famille, qui est là pour prendre des décisions, pour connecter avec les autres familles autour. Puis nous, on le voit, mettons, dans le livre Bowling Alone, là, je veux dire, les années 50, c'était, en termes de capital social, justement, là, toi, tu parles de l'armée d'Isabelle, ou en tout cas, le club optimiste, les groupes communautaires étaient souvent dirigés par des femmes, là, tu sais. Donc, cette idée-là de la femme à la maison, pieds nus, en guenilles, dans les années 50. Oui, il y a eu de l'abus, là. Il y a pas, mais je veux dire, ces femmes-là restaient pas à la maison à rien faire, là. Ils étaient le cœur de cet espace-là communautaire, ces institutions intermédiaires. Il y avait un rôle important là-dedans. Puis, encore aujourd'hui, moi, j'ai comme des préoccupations quand on parle de, bon, ben, pousser l'âge de la retraite ou donner des incitatifs aux personnes âgées pour travailler plus longtemps. Ben, ça se fait pas à coup nul, ça. Aux yeux de l'État, ça monte le PIB, mais avec les femmes qui ont quitté l'espace communautaire à partir des années 50, ben, ceux qui ont pris la relève avec l'augmentation de l'espérance de vie, c'est les personnes semi-retraitées et retraitées. Mais là, si tu gardes ce monde-là sur le marché du travail, ben c'est qui va rouler tes banques alimentaires au Québec? C'est qui va rouler le reste d'institutions intermédiaires qu'on a? Ça va aussi avoir un impact, là. Puis là, c'est pas un impact genré, c'est un impact, tu sais, au niveau de l'âge, quand même.
J'ai envie d'en venir un peu plus tôt sur les causes. Ouais. Tu avais mentionné, je pense pas qu'il y a une cause technique, là. Mm-hmm. Parce que je pense pas que la fertilité, c'est un problème technique tant que ça, là. Au niveau technique, il y a plein de problèmes. Mm-hmm. Puis après ça, tu semblais dire, si je comprends bien, que c'était un truc de libéralisme ou d'individualisme, là. Puis ça, c'est pas un problème technique, vraiment, l'individualisme. Mais est-ce que tu aurais tendance à expliquer, disons, la chute de fertilité surtout comme ça? Si on regarde pas au niveau des causes techniques, mais qu'on regarde au niveau des... Si on est prêt à regarder au niveau philosophique ou spirituel, là, que c'est la faute de l'individualisme?
C'est dans le sens que l'individualisme, comme toutes ces questions-là, c'est pas des concepts qui flottent dans le vide. T'sais. C'est à l'intérieur d'un système qui se renforce. Fait que, l'individualisme est causé par des forces que l'individualisme parfois va renforcer à son tour. Là, donc, fait que l'individualisme, le fait qu'il y a plus d'isolation, que les foyers sont plus petits, que les familles sont moins grandes, ben là, ça a un impact. Comme on parlait, là, la taille des familles, ben les gens sont moins en contact avec des enfants, ils ont moins un réseau de soutien, fait que là, c'est comme un effet...
Les gens se marient plus tard, puis...
Renforçant. Je pense un gros facteur, c'est vraiment aussi l'âge du premier enfant. Ça, je dirais, comme, si, mettons, une politique publique facile ou en tout cas peu coûteuse, ça serait d'augmenter la dans le fond, c'est qu'on est aussi dans un genre de transhumanisme, là, où on l'a vu là, à la dernière campagne fédérale, c'est tabou de parler de la question de l'horloge biologique.
Ben oui.
C'est comme insultant, mêle-toi de tes affaires, mais c'est comme, il y a une partie, tu sais, dans le sens que quand tu regardes, par exemple, la fertilité finale, okay, tu vois qu'une bonne partie de notre baisse de fertilité, de l'indice de fécondité synthétique, là, ça n'a pas mené nécessairement à ce que, rendu à 50 ans, au bout du compte, la femme a eu moins d'enfants. T'sais, quand tu regardes par génération, là, ça a baissé, mais tranquillement. Là, ça a l'air de plus suivre. Parce que dans le sens que si l'âge moyen du premier enfant était à 25 ans, puis là, il est à 29 ans, ben tu peux quand même, si ton premier enfant est à 29 ans, puis tu as un 5 ans entre tes deux, trois enfants, tu vas pas toucher à cette fenêtre de biologique. Tu vas pas être, mais là, on atteint la limite.
Ouais.
Puis là, on voit dans les cohortes plus jeunes que tu dis, ben, si la courbe continue dans ce sens-là, ben, à moins de développement technique important, on va frapper un mur là-dessus. T'sais. Fait que la question de avoir un premier enfant plus tôt, surtout quand aujourd'hui on diplôme pour à peu près tout. Il y a plein de professions qui n'exigeaient pas de diplôme auparavant, pour lesquelles on exige des diplômes.
C'est un gros problème, là. Ça, c'est, je pense que c'est vraiment un gros problème, cette affaire-là.
Ben oui.
C'est que, tu sais, on a créé une culture, tu sais, où c'était juste dans l'air. Moi, quand j'étais jeune, c'était dans l'air. Tu sais, ouais. Mes parents m'ont jamais dit ça directement. Mais ce qui était dans l'air, c'est l'ordre, c'est ceci. Tu finis ton secondaire, tu vas au cégep. Si t'es un peu brillant, tu fais ton bac, peut-être ta maîtrise. Ouais. Après ça, tu trouves un emploi. Après ça, tu te maries. Après ça, t'as des enfants. Fait que là, t'arrives, t'as 25, 26, 27, 28. Là, tu commences à y penser. 29, 30, tu te maries, tu commences à avoir des enfants à 30. Mais tu sais, c'est fou.
Moi,
je dis pas ça à mes enfants. Là. Moi, je dis au contraire. Moi, j'ai même dit, à mes enfants, j'ai dit, tu peux avoir des enfants quand t'es à l'école, hein. C'est vraiment possible.
Ah, non, moi aussi, j'ai dit la même chose.
Tu peux prendre un an de plus à l'école, mais tu peux avoir des enfants quand tu es à l'école. Là.
Moi aussi, je leur dis la même chose, mais notre système est fait, par exemple, prendre la RQAP, tu sais, qui est dans le fond, qui est un programme d'assurance emploi revampé. Là. Ben, tu dis, bon, ben, mon taux de RQAP, il est basé sur mon salaire de la dernière année. Fait que là, si tu travailles à temps partiel pendant que tu es aux études, tu te dis, bon, ben, si j'ai un enfant, je vais avoir, je sais pas moi,
ah ouais, c'est
15 000 $. Tandis que si j'attends de finir mon bac, puis là, de me trouver un emploi, puis de travailler 12 mois, mais là, tu sais, c'est un peu mal vu quand même quand tu travailles 12 mois à ta première job en sortant de l'université, puis tu dis, hey, bye-bye,
je vais avoir un enfant.
Je m'en vais avoir un enfant. Fait que peut-être tu pousses à un an et demi, deux ans, trois ans pour être poli. C'est comme, c'est ça qui fait que, qui contribue en partie à ce délai-là. Alors que, bien souvent, c'est la période universitaire, tu sais.
C'est incroyable parce que ça, c'est la plus flexible qui était là pour encourager les gens à avoir des enfants.
En fait, l'université, ça c'est un peu ironique, c'est que notre expansion universitaire là, dans les années 70, là, c'était une réponse au baby boom. C'était une réponse au fait que le marché de l'emploi était incapable d'absorber tous ces bébés-là, ben ces jeunes adultes-là, ces nouveaux travailleurs-là en même temps. Fait que l'État se ramasse avec une situation où on dit, bon, ben, est-ce qu'on laisse tous ces jeunes-là au chômage en sortant du secondaire? Ou, bon, ben, tant qu'à les parquer quelque part, on va les parquer
à l'école.
Puis après ça, ils vont développer leur talent, leur capacité, puis après ça, ils vont pouvoir exercer des métiers qu'ils n'auraient pas pu exercer s'ils n'étaient pas allés à l'école. C'est une logique quand même intelligente là, dans les années 70.
Puis c'est aussi de dire, surtout pour les Québécois, c'était de dire, on va aussi prendre charge de nos institutions. T'sais, on a une population qui est mal, qui n'est pas très éduquée, donc, pour être honnête, les anglophones se retrouvent à prendre les postes élevés.
On va éduquer
une génération, on va les amener au niveau où ils vont pouvoir prendre... C'est comme, j'en veux pas à personne des décisions qui ont été prises pour nous amener où ce qu'on est ici, sauf qu'il faut aussi être capable de voir où ce qu'on est rendu puis les conséquences.
Ben c'est ça, c'est qu'il y a des conséquences de deuxième puis de troisième ordre. Puis c'est facile aussi de critiquer comme maintenant, tu sais, ils disent hindsight is 2020.
Ben c'est facile
de critiquer ces conséquences de deuxième, troisième ordre. Puis c'est facile aussi de dire ah ben on devrait faire ça à la place sans imaginer nous aussi les conséquences. Ça c'est l'histoire de l'humanité, tu sais, on peut pas passer à côté. Mais c'est sûr que tu sais quand tu vois la par exemple là pour je veux dire avant, t'occuper de tes enfants, ça demandait pas de qualification particulière. Mais là, aujourd'hui, tu sais, en service de garde, ça prend une technique. Fait que ça te prend trois cours de philo. Je pensais bien là, que les gens apprennent la philo, tu sais, mais c'est comme... Tu veux vraiment me dire que quelqu'un est pas qualifié pour garder un enfant parce qu'il a coulé son deuxième cours de philo, puis que... c'est là aussi où ce que tu dis, on crée des institutions qui... très rapidement inverse les fins et les moyens. Ça, je pense, c'est très biblique, là, livre de 1 Samuel, 2 Samuel, c'est tout le temps, c'est toute une série de récits sur l'inversion des fins et des moyens. Là. Mais là, c'est un cas flagrant. T'sais. C'est comme, est-ce que l'éducation, c'est un moyen en vue de? Est-ce que l'université, c'est un moyen en vue de t'éduquer? Ou est-ce que t'éduques afin de comme grandir, tu sais, faire grandir l'université, maintenir l'institution, maintenir ton nombre d'employés? Ben, toutes les institutions humaines ont tendance à avoir dans leur propre survie puis leur propre expansion leur fin ultime. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin de liturgie, on a besoin de tout le temps se remémorer à quoi ça sert. T'sais. Puis c'est vrai pour une famille, c'est ça qui est intéressant. La famille, c'est une des institutions qui te montre que moi, j'arrive, là, mes enfants, mon petit dernier vient de rentrer au secondaire. T'es assez conscient là, que comme il y a des cycles dans les vies d'une famille, puis que je ne pourrais pas conserver cette institution-là telle qu'elle est sous sa forme actuelle pour toujours.
J'aurais envie d'en venir sur la question des tabous, parce qu'il y a une des choses dont je suis surpris de pas entendre plus parler, c'est aussi l'impact au niveau sociologique que les différences entre les taux de fertilité ont en différents groupes. Mm-hmm. Parce que l'affiliation politique et religieuse, c'est en partie héréditaire. C'est pas 100%, mais c'est de l'ordre de peut-être 40% de la variance peut-être. est d'ordre héréditaire. On peut étudier ça avec des jumeaux, par exemple, versus des frères et sœurs qui sont pas, ou des jumeaux identiques versus des jumeaux pas identiques, etc. Puis, tu sais, comme tu avais mentionné plus tôt, si tu compares les femmes qui sont à gauche versus les femmes à droite, si tu compares les femmes qui vont à des services religieux régulièrement versus celles qui vont pas, tu sais, on peut s'attendre à avoir des gros impacts démographiques sur la composition religieuse et politique du Québec dans 100 ans, par exemple. Dans trois, si à chaque génération, tu perds la moitié de tes gens qui sont à gauche ou encore plus, ben, c'est à trois générations, c'est comme t'as coupé par, par un facteur de 7 sur 8, là. Fait que c'est énorme. Puis, à l'inverse, moi, je connais plusieurs familles catholiques qu'ils ont jamais arrêté d'avoir le taux de fertilité de nos arrière-grands-parents. Je connais du monde qui ont comme des centaines de petits-enfants. Ben, pas des centaines, une centaine. Fait que, tu sais, ce genre de personnes-là, si ça continue comme ça, parce que là, on dirait que...
Salut la famille mal-enfant de Québec.
J'en connais quelques-uns. Si ça ne ralentit pas tant que ça, tu sais, de quoi le Québec va avoir l'air dans 100 ans? T'sais, à quel point les gens qui sont plus à gauche se font remplacer rapidement par des gens comme ça?
Ouais.
Ben, je suis surpris qu'on n'en parle pas plus.
Cette hypothèse-là, en fait, est soulevée par un penseur canadien, Eric Kaufman, qui est prof maintenant en Angleterre, là, un chic type. Là. Il était à Arc, justement, Jonathan, à notre petite soirée. Là, t'étais assis de chaque côté, sans le savoir. Il a écrit « The religious shall inherit the earth ». Puis lui, il n'est pas d'un arrière-plan religieux, mais c'est son hypothèse là-dedans. Il dit, tu sais, c'est ça aussi que ça cache. Là, quand tu dis « OK, le taux de fécondité moyen au Québec est 1,34 », mais là, quand tu regardes un peu plus profond, tu es comme « OK, là, je dis un peu n'importe quoi, mais tu sais, chez les religieux, c'est 2,5, puis chez les non-religieux, c'est 1 ». Ben là, si tu... Puis, tu sais... Tu prends pour acquis que le taux de rétention dans les groupes est à 100%, là, même si c'est pas le cas. Bah oui, à terme, ton taux de fécondité va remonter parce que le groupe qui a un plus haut taux de fécondité va dominer. Puis ça, encore une fois, ça fait partie un peu de la théorie de l'évolution ou un des éléments de la théorie de l'évolution ou en tout cas de l'économie, là, dans le sens que, l'espèce qui a un comportement adapté au changement environnemental, celui qui est capable de le plus s'adapter, ben, va survivre, prospérer. Puis celui qui est pas capable de s'adapter va pas survivre, prospérer. Puis c'est vrai que ce qu'on réalise, pour reprendre une question plus large, c'est la fécondité. Clairement, ce qu'on découvre en ce moment, c'est la dimension culturelle de la fécondité. Dans le sens que dans le passé, ce qui drivait, là, ce qui avait l'impact principal sur ta population, c'était les épidémies, les guerres, les famines. Puis là, c'est comme pour la première fois, on est dans une période extrêmement longue, sans épidémie, sans guerre, sans famine. Et là, on a complètement isolé le facteur socio-culturel, puis on voit qu'il peut avoir un rôle encore plus déterminant que les pires guerres puis les pires famines. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et oui, à terme, il pourrait y avoir un plus grand nombre de gens qui sont religieux ou conservateurs. Je dirais, puis là-dessus, je vais rentrer en terrain un peu controversé, mais je dirais qu'en même temps, notre système politique est designé pour rebalancer le pouvoir.
Oui, ça c'est clair.
T'sais, dans le sens où si, par exemple, moi je suis pour le droit de vote pour les enfants. Je pense que les parents devraient pouvoir voter pour leurs enfants.
Oui, tu dis les parents, pas le droit de vote des enfants, mais le droit de vote pour les enfants.
Exactement. Chaque parent
a un demi-droit de vote. C'est important de rester sur la différence pour les gens qui écoutent, là, qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
Chaque parent a un demi-droit de vote de ses enfants.
Oui.
Tu sais? Simplement parce que comment est-ce que c'est juste qu'un homme de 80 ans qui a une espérance de vie moyenne de 5 ans dans ce pays-là peut voter puis on pose pas la question, mais que l'enfant de 2 ans de 5 ans qui lui reste 80 ans à faire dans ce pays-là, ben lui il est pas représenté, ou que ses parents ou ses intérêts sont pas représentés par un parent. Ça, c'est sûr que ça a un impact. Puis ça, on le voit là, surtout en France, sur la question des retraites, comment les inactifs sont moins taxés marginalement que les actifs. Ça a certainement un impact. Puis après ça, il y a aussi un impact sur la capacité d'implication politique. C'est beaucoup plus facile de s'impliquer politiquement ou de dépenser ou d'avoir un impact sur des partis politiques quand tu es un célibataire ou un couple de professionnels célibataires sans enfants. Tu sais, qu'il n'y a pas de souper à faire en arrivant à la maison, qui peut participer à des activités politiques versus quand tu as 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Là. C'est sûr que ça te retire d'une certaine façon de la vie politique.
On va proposer ça, voir comment ça va passer, Jean-Christophe.
Non, ben, ça se discute de plus en plus. Ça se discute de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a comme... On a étendu le suffrage. Dans le fond, l'histoire de la démocratie, c'est une histoire de l'extension du suffrage. Donc, pourquoi ne pas franchir cette limite-là? Je vois pas vraiment pourquoi on s'empêche de le faire.
Je vais te la donner tout de suite parce que je la connais idéologique, c'est que l'idée que le parent représente les enfants, c'est une idée qui est qu'on essaie d'évacuer du discours social.
Ouais.
On essaie de nous proposer que, en fait, l'État doit protéger les enfants des parents.
Raison de plus d'en faire un champ de bataille politique.
Oui, moi, je suis d'accord, mais c'est quand même une réalité, là.
Ouais.
Bon, ça fait presque une heure qu'on parle. J'aurais d'autres questions, mais à un moment donné, c'est correct d'arrêter aussi, là, quand ça fait presque une heure. Fait que, à moins que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter là-dessus, dans la question, peut-être, Jonathan.
Ben moi, je dirais juste, en tout cas, merci à Cardius puis à vous de prendre cette question-là à cœur puis de bouger avec, parce que c'est une question qui est très importante, mais qui est aussi plein de mines. Là. C'est miné, là, c'est difficile, puis ça peut certainement faire des ennemis dans le discours populaire.
Oui, on est habitué, là, si tu vois peut-être les commentaires sur Internet. Là. Souvent, on est attaqué parce que on s'identifie au christianisme, à la doctrine sociale de l'Église, mais il y a beaucoup de c'est que ça fait partie des préjugés acceptables, des discriminations acceptables, mais ça vient avec le territoire là quand même. Je pense que c'est après ça la valeur des idées, je veux dire, pour le bien commun, pour le bien de la société, peuvent être jugées sur le mérite. Puis je pense que ça nous permet d'influencer quand même le débat public.
Parfait. Bon ben, merci beaucoup Jean-Christophe, merci Jonathan, merci tout le monde d'avoir été là, puis on se reverra dans quelques semaines pour le prochain. Bye bye.
Salut tout le monde.
Bye.